Lecture du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, elle resplendit. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton corps, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors de d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur.
Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur.
Alléluia!
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda. Car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Acclamons la parole de Dieu.
Gloire à toi,
Les enfants du primaire sont invités à aller avec le père Vincent de Paul pour une homélie plus adaptée à leur âge.
Je rappelle aussi aux parents qu'il y a une garderie pour les enfants de 0 à 3 ans. N'hésitez pas à aller au niveau du patron des filles, c'est ouvert aujourd'hui.
Il y a 15 jours, nous sommes venus nous prosterner devant le Sauveur du monde, le Messie, avec les bergers, tel que nous le racontait saint Luc dans son évangile. Et aujourd'hui, l'Église nous invite à venir nous prosterner avec les mages dans le récit que nous en a laissé saint Matthieu. Saint Matthieu commence, comme Saint Luc, par préciser le temps historique où se situe l'événement, au temps du roi Hérode le Grand. Puis il nous dit que des mages sont venus d'Orient et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Cette histoire d'étoile ressemble un peu à un conte de fées. Or, il n'en est rien. Au XVIe siècle, un grand astronome qui n'était pas un astrologue, Kepler, je crois, repéra qu'il y avait eu une conjonction de trois planètes qui se réunissaient pour faire un astre extrêmement lumineux qui ensuite se séparait et puis quelque temps revenait encore ensemble pour refaire un astre lumineux. Et il en avait parlé à un vieux rabbin qui lui avait dit « Oh, mais ça, c'est le signe de la naissance du Messie. » Nous sommes en 1500 et quelques. Or, on a pu montrer scientifiquement que cet événement arrivait tous les 500 et quelques années, et donc il s'était produit justement au moment de la naissance de Jésus. Sans doute est-ce là l'étoile qu'ont vu les mages. Mais cela ne suffit pas pour avoir l'idée de venir à Jérusalem. Alors il est vrai qu'à l'époque, même sans connaître la Bible, il y avait des vieux oracles, en particulier un oracle donné par un prophète païen au temps de Moïse, un prophète qui avait été payé pour maudire Israël. Seulement voilà, la parole de Dieu était vraiment tombée sur lui et il avait fini par dire « Oracle de Balaam, oracle de l'homme au regard pénétrant ». Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Je vois un héros qui se lève, un astre issu de Jacob qui devient chef. Peut-être que cet ancien oracle avait mis nos mages sur le chemin de Jérusalem. En tout cas, ils arrivent en demandant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» C'est étrange, non? Sauf peut-être qu'on retrouve encore ce titre comme le motif de la condamnation de Jésus. Sur la croix, il était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Alors Jésus n'est-il que le roi des Juifs? Pour bien comprendre, il faut remonter en arrière et essayer de comprendre la stratégie de Dieu avec les hommes. Dieu commence par appeler un homme, Abraham, et il en fait son ami. Il en fait même son chouchou, parce qu'on voit dans certains épisodes que même Abraham n'est pas toujours très honnête. Il ment un peu, et Dieu le soutient quand même. Et donc, avec cet homme, il fait alliance, et puis il va lui faire des promesses. Il va promettre un héritage, il va promettre un Messie. Et quand ce Messie arrive, la réalisation dépasse immensément la promesse. Puisque c'est Dieu qui se fait homme pour nous. C'est Dieu qui va donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Alors bien sûr, cela accomplit les promesses faites par les prophètes depuis Abraham. Mais cette promesse, j'allais dire, elle éclate. Et donc Jésus est bien le roi des Juifs, mais il est aussi le sauveur du monde. Et c'était déjà en germe dans l'Ancien Testament. À cette époque-là, chaque peuple avait son Dieu à lui. Comme ça, il n'y avait pas trop de problèmes. Les vaches étaient bien gardées, chacun chez soi.
Il y avait juste un peuple, le peuple d'Israël justement, qui avait une autre prétention, qui prétendait que son Dieu était le Dieu de tous les hommes. Et on voit ça déjà rien que dans le récit de la Genèse. Le livre des Juifs s'ouvre par son Dieu qui crée tout. Et puis il y a des tas d'endroits, en particulier dans le livre d'Isaïe, pour ne citer que les passages qui correspondent à la lecture de ce matin, les nations, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, marcheront vers la lumière de Jérusalem. Vers toi, Jérusalem, viendront les richesses des nations. Donc on voit que déjà, ce peuple juif devait être la lumière de toutes les nations pour les mener vers le vrai Dieu. Et puis il y a quelque chose d'étonnant aussi dans ce récit que nous venons d'entendre, c'est que les mages savent donc que ça y est, c'est le moment. Le roi des Juifs va naître. Mais les Juifs, eux, ne le savent pas. Eux, ils savent bien que le Sauveur doit naître à Bethléem. Mais Michée a promis ça il y a au moins 500 ans. Et donc, d'une certaine façon, vous savez, comme les promesses, quand c'est un peu long, on attend plus de trop ou on ne sait pas de trop. Donc Dieu a voulu que les païens aient besoin des Juifs et que les Juifs aient besoin des païens. Et je crois que c'est une leçon pour la fête d'aujourd'hui, pour nous aujourd'hui. Dieu veut que nous ayons besoin les uns des autres. Nous qui connaissons beaucoup de choses sur Dieu, à travers le catéchisme, à travers la Bible, à travers les messes, des fois on a besoin que des non-chrétiens nous réveillent un peu et nous rappellent l'essentiel de notre foi et du bien. Et puis les non-chrétiens, ils ont aussi besoin que nous leur annoncions les merveilles que Dieu a fait pour nous. Donc voilà, Dieu veut que nous ayons besoin les uns des autres. Alors il y a quelque chose d'important aussi dans ce texte que nous venons d'entendre. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de croire. Le peuple juif croit. Ils savent des tas de choses sur Dieu. Mais de façon étonnante, ils ne bougent pas. Et même Hérode va aller contre la volonté de Dieu. Il faut dire qu'Hérode n'est pas un descendant de David. Donc, d'une certaine façon, par rapport à la volonté de Dieu, c'est un usurpateur. Donc, il a peur à l'annonce du descendant de David qui va naître. Mais, voilà. Oui, donc, il ne s'agit pas seulement de connaître, il s'agit de se bouger, et de se bouger dans le bon sens. Ça existe encore les gens qui résistent à la volonté de Dieu. Un exemple pris dans un livre du père Grosjean, qui raconte qu'un jeune homme, mais déjà d'un âge bien mûr, était venu le voir en lui disant, « Vous savez, mon père, quand j'étais jeune, eh bien, j'ai senti l'appel de Dieu à être prêtre, à être tout à lui. Mais j'ai tout abandonné pour être bien sûr de ne pas répondre. » Donc ça existe encore. Et il nous faut au contraire être comme les mages et nous bouger. Les mages se sont mis en route. Et dans la première lecture aussi d'Isaïe, le prophète nous dit « Debout, Jérusalem !» Alors je vous rassure, vous qui êtes ici, vous êtes déjà du bon côté, parce que vous vous êtes levé ce matin, vous êtes bougé, vous êtes sorti de vos maisons pour venir à la messe, et pour venir à la rencontre de Jésus. Et c'est déjà, voilà, c'est pour ça que c'est important de se lever, pas seulement de savoir son catéchisme. Benoît XVI, que nous vénérons,
hein, en cette semaine où nous avons célébré ses obsèques, hein, disait en invitant les jeunes au JMJ, et les JMJ c'est justement un moyen pour les jeunes justement hein, de se bouger, de se remuer, d'aller ensemble vers le Seigneur. Hein. Quand il invitait les jeunes à Cologne, où on vénère soi-disant hein, les reliques des rois mages, il leur disait « Ouvrez tout grand votre cœur à Dieu, laissez-vous surprendre par le Christ ». Oui, là, Dieu nous envoie des signes hein, à travers la parole de Dieu, à travers nos amis, à travers ce qu'il fait vibrer dans notre cœur. Mettons-nous en route à l'appel du Seigneur. Hein. Et si nous bougeons, alors nous aurons la joie, si nous suivons notre étoile, nous aurons la joie, comme les mages aussi, de revoir l'étoile qui revient. Hein. Dieu qui confirme l'appel parce que nous nous sommes déjà mis en route. Et ce sera aussi pour nous une très grande joie. Alors nous qui sommes venus à la messe ce matin, qui nous sommes bougés, hein, comme les mages, venons adorer le Seigneur et offrons-lui notre or, notre encens et notre myrrhe. L'or, c'est l'argent, bien sûr, c'est la puissance. Hein. Est-ce que nous donnons à Dieu, dans la prière, mais aussi dans le service des pauvres, hein, nos biens, notre temps. Quand nous avons un pouvoir sur les autres, est-ce que nous le mettons à leur service, au service de Dieu? Et puis offrons aussi notre encens. L'encens, c'est pour l'adoration. Hein. Alors nous venons adorer le Seigneur à la messe, bien sûr. Mais est-ce que nous venons aussi, je pense qu'on a besoin de plus que ça. Hein. Dans cette paroisse, il y a des temps d'adoration. Le dimanche après-midi, entre 17 et 18 heures. Le vendredi soir, entre 19h30 et 20h30. Hein. Et puis, l'église est ouverte tous les jours, de 8h à 20h. Hein. On peut venir prier en silence dans l'église. Hein. C'est un lieu habité, Jésus est là. Présent au tabernacle. Voilà, et puis il y a la myrrhe. Ah. L'or et l'encens avaient été annoncés dans l'Ancien Testament, hein, en particulier dans le texte d'Isaïe qu'on a lu. Mais pas la myrrhe. Mais parce que quand Dieu fait des promesses, il réalise toujours plus. Il y a toujours un bonus. Hein. Et là, la myrrhe, c'est un bonus mystérieux, hein, puisque la myrrhe, c'était surtout le parfum utilisé pour ensevelir les morts, pour nous rappeler bien sûr que Jésus a donné sa vie pour nous et que nous aussi, nous sommes appelés à donner notre vie pour Dieu, pour les autres. C'est là notre vocation. Hein. Saint Paul nous dit dans une de ses lettres que l'adoration véritable, le culte véritable, c'est d'offrir notre vie et notre personne en sacrifice saint capable de plaire à Dieu. Et c'est aussi ce que nous venons faire à la messe. Quand tout à l'heure, les servants de messe vont apporter le pain et le vin en procession. Alors là, cette messe-ci, le symbole est fort, vous voyez. Ils vont passer au milieu de vous. Et donc c'est en votre nom qu'ils apportent le pain et le vin à l'autel. Ce pain et ce vin, c'est le fruit de votre travail hein, et puis de ce que Dieu vous a donné. C'est votre vie qui est amenée à l'autel pour être offert à Dieu. Et comme nous savons, comme Dieu sait que, puis nous aussi, hein, que ce que nous offrons à Dieu, c'est plus ou moins bien, eh bien ça va devenir, c'est ça qui va devenir le corps et le sang du Christ. Vous voyez, Jésus s'unit à notre offrande. Pour que tout ça soit offert au Père à la fin de la prière eucharistique, hein, où le prêtre prend le corps et le sang du Christ et les offre à Dieu le Père, hein, par lui, avec lui et en lui, Jésus qui est là. Hein. À toi, Dieu le Père tout-puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Vous voyez, c'est ce mouvement de nos vies et de tout ce que nous faisons qui est offert avec Jésus à Dieu le Père. Alors que tout ce que nous vivons dans cette messe, avec les mages, eh bien, nous aide à repartir après cette messe, hein, par un autre chemin. Amen.